toujours demandé, mais qu'est-ce que je fais sur Terre? C'est quoi le but? C'est quoi le sens de ma vie? Et c'était vraiment cette question, OK, pourquoi je suis sur Terre? Et je pense qu'elle est arrivée vers 5-7 ans et elle ne m'a pas quittée à peu près, tu vois, jusqu'à 30 ans, de dire, OK, pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi je suis sur Terre? Ce moment où cette personne m'a dit, mais tu ne pourras pas travailler en spiritualité pour un autre, il n'y a pas assez de place. Et m'a dit, t'es obligée, si tu dois avoir un don et y aller, quoi. Et c'est là où, quelques jours après, je me dis, bah, OK, pourquoi j'irai pas, quoi? Pourquoi pas moi? Plus moi, j'accueillais qui j'étais et j'osais en parler, plus c'était simple pour les autres.
Bienvenue sur Pourquoi pas moi? Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de Et si je changeais de métier? Et la créatrice d'un bilan de compétences Nouvelle Génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Cela faisait plusieurs mois que j'ai cherché à joindre Sarah. J'étais tellement heureuse quand elle m'a dit oui. Nous étions toutes les deux dans la même promotion en école de commerce. Depuis le lancement du podcast, deux amies m'avaient recommandé de l'interviewer. Quand j'ai découvert ce qu'elle faisait, évidemment, je voulais l'interviewer. Sarah a donc fait une école de commerce, puis s'est spécialisée en marketing opérationnel. Après 9 années de marketing, son dernier poste étant chef de produit chez Skyrock, il y a 7 ans, elle a osé se lancer. Elle devient alors auteure, formatrice et consultante en intuition. Elle est aujourd'hui une référence en la matière et est suivie par une communauté de plus de 60 000 personnes. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Sarah Diviné.
Bonjour Sarah.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît?
Alors c'est un arbre qui s'appelle Angel Oak, qui est un chêne qui se trouve aux États-Unis et il a cette majesté. Les gens viennent prier, en fait, à ses pieds. Et je trouve qu'il est vraiment majestueux. Et là, je viens de finir un oracle qui est l'oracle des arbres. Et je me suis connectée à lui. Et il a un côté tellement angélique, tellement rassurant que voilà mon objet pour notre échange aujourd'hui.
Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi?
J'ai grandi, moi, en banlieue sud parisienne. Et après, j'ai vécu à Paris longtemps. Et quand je suis devenue indépendante, enfin, auto-entrepreneur, je suis partie m'installer à La Réunion. Et après, j'ai voyagé où je suis devenue nomade pendant 3 ans. Donc, sans domicile fixe, mais de luxe. et ensuite, j'ai beaucoup continué à voyager à Lyon. Et là, je viens d'arriver en Suisse.
Alors, on va en parler tout ça parce que c'est passionnant. L'idée, c'est du coup de raconter d'abord qui t'étais comme petite fille, comprendre du coup... ce qui t'a construit et puis après tout ça. Du coup, c'était quoi comme type de petite fille quand tu avais 5-6 ans?
5-6 ans, j'étais très joyeuse. Tu vois, à un moment, il y a mon frère qui demande à ma grand-mère « Mais Dadou, pourquoi on est sur Terre ?» Et ma grand-mère, elle ne savait pas trop quoi répondre. Et elle m'a partagé comme quoi, moi, je lui ai dit en sautant « Mais on est là pour jouer, on est là pour s'amuser. » Donc voilà, génial. Ça résume un peu comment j'étais quand j'avais 5-6 ans.
Et t'étais, je lisais sur Instagram un post que tu publiais où tu racontais que tu voyais ton frère et que tu disais que t'étais une petite fille qui se posait beaucoup de questions, justement, des questions que potentiellement des petites filles ne se posaient pas.
C'est ça, pour moi, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que je fais sur Terre? C'est quoi le but? C'est quoi le sens de ma vie? Et c'était vraiment cette question, OK, pourquoi je suis sur Terre? Et je pense qu'elle est arrivée vers 5-7 ans et elle ne m'a pas quittée à peu près, tu vois, jusqu'à 30 ans, de dire, OK, pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi je suis sur Terre?
Et ton entourage, quand tu leur partageais ça, qu'est-ce qu'ils te disaient, tes parents, notamment?
Je pense que je ne le partageais pas trop à mes parents. C'était plus une quête intérieure.
Et tes parents, eux, ils faisaient quoi comme métier?
Ma mère, elle est médecin. Elle s'occupait des lymphomes, donc tout ce qui était cancer autour du sang. Et mon père était ingénieur. Et après, il s'est transformé, on va dire, il est devenu psychothérapeute.
Waouh, génial. Et toi, quand tu étais petite, tu disais, oh, qu'est-ce que j'aimerais faire?
Alors, c'était un peu bizarre. Au début, quand j'étais petite, je voulais être vendeuse pour toucher de l'argent. Et l'autre chose, c'est que j'adorais jouer. Là, par exemple, à un moment, j'avais fait une méditation comme ça, dans un stage, et l'idée, c'était de dire qui tu étais quand tu étais enfant, mais surtout, qu'est-ce qui te faisait plaisir, en fait, de faire. Et moi, c'était vraiment dans la cour de récré, c'était jouer, tu vois. C'était jouer au Delidelo, c'était... aller m'amuser avec les amis, organiser des jeux, animer, tu vois, dans la cour de récré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir créé un métier sur mesure. Et là, je sors d'un stage de 5 jours. Et c'est ça, en fait, j'arrête pas de jouer avec les gens et de leur proposer des jeux, des méditations. Donc, je pense que c'était ça, en fait, que j'adorais quand j'étais petite, c'était jouer.
Et donc, quand tu as commencé à devoir réfléchir à ce que tu allais faire comme étude, comment ça s'est passé pour toi?
J'avais pas trop d'idées parce que j'aimais pas l'école. Et mon père m'a dit, mais fais une école de commerce, je pense que le marketing t'irait bien parce que c'est quelque chose qui est créatif et qui est en même temps dans l'organisation, dans les projets, dans le contact avec les autres. Et je me suis dit, OK, ça me dit bien, j'ai regardé. Et puis, c'était parti pour école de commerce et marketing, quoi.
Et donc, tu as fait la grande école de commerce Kelly Pag.
C'est ça.
La très, très grande école de commerce. Et tu as fait, donc, à l'IPAG, tu as fait une spécialisation marketing. Donc, toujours, en fait, quand tu as intégré l'IPAG, tu t'étais dit vraiment que tu avais envie de faire du marketing ou c'est au fur et à mesure de...
Non, moi, dès le début, je me suis dit, je vais faire du marketing parce que ça avait l'air stimulant, créatif. Il y avait vraiment cette idée de, tiens, on peut avoir une idée et en fait, on la met en forme et on peut vraiment créer un univers grâce à ça. Donc, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Et c'était la première fois que j'aimais mes études. Tu vois, je pensais que j'allais pas vraiment faire de longues études. Et le fait de me dire, tiens, je fais 4 ans et en plus, je fais un master derrière en marketing opérationnel. Tu vois, j'ai vraiment eu du plaisir, en fait, à apprendre quelque chose qui me faisait du bien et dans lequel je me sentais en harmonie.
Ouais. Et donc, tu as commencé donc, ta carrière professionnelle dans le marketing.
Ouais, c'est ça. Donc, je travaillais pendant 7 ans, marketing, web et mobile. Donc, au début, j'étais intérimaire chez Orange. Après, je suis devenue consultante. Et ensuite, j'ai travaillé chez Skyrock pendant 4 ans, ouais. La radio et les blogs, jusqu'à me lancer dans mon activité.
Et alors, justement, à partir de quand, en fait, tu as commencé à… Tu dis, je crois que c'est sur ta newsletter, où tu dis que tu as réussi à développer une capacité à être vide de toute pensée depuis 2011. Donc, oui. tu venais à peine de commencer Skyrock, parce que tu avais commencé en 2010. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie?
Pour moi, juste après avoir fini le master en marketing opérationnel, donc je travaillais, j'ai arrêté de travailler. Et puis, je me séparais d'une relation qui était longue et c'était un peu violent à la fin. Et je retournais vivre chez mon père. Et pour moi, ça a été vraiment cette période de brouillard qui a duré quelques mois. Surtout après, il y a ma grand-mère qui était en fin de vie. Et tous les jours, je me disais, OK, c'est quoi le but? C'est quoi le sens? Qu'est-ce que j'aime faire? Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est toutes mes pensées qui m'empêchaient d'être vraiment connectée à moi. Et mon père, à ce moment-là, faisait déjà cette technique qui vient de la psychophanie. Où on se connecte à une personne, on a une sorte de petit clavier et la main bouge. Et après, on entend en fait le message d'une personne qui est plus orientée pour les personnes autistes, pour communiquer avec elles. Et il savait faire ça, mais sans forcément le clavier et puis avec une personne à distance. Et je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire, quoi. Et c'est là où je me suis entraînée et j'ai pratiqué pour calmer mon esprit, pour arriver à diminuer mes pensées, développer ce calme intérieur pour après réussir à le faire. Et quand j'ai réussi à le faire, je me suis dit, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et j'avais envie de le partager. Et donc, j'ai créé un blog en 2011 qui me permettait d'aider les gens, on va dire, à communiquer avec leur âme, à apaiser leur esprit et puis à avancer, à avoir vraiment ce côté, tiens, je peux avoir du plaisir à vivre sur Terre.
Et ça, parce que communiquer avec son âme, il y a des gens pour qui ça paraît perché. Ouais. Comment ton entourage l'a accueilli et...
C'était un peu particulier parce que je le faisais plus en sous-marin. Parce qu'en plus, à l'époque, c'était il y a déjà 10 ans. C'était mal vu, c'était pas très bien compris. Alors, quand je disais aux personnes, ils me disaient « Ah, t'es une sorcière !» Et je disais « Non, c'est pas vraiment ça !» Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert. Maintenant, le développement personnel a vraiment fait un boom depuis quelques années. Donc, c'est plus comment ralentir son rythme, comment apaiser son esprit, comment diminuer son stress, comment comment écouter cette petite voix intérieure? Donc, je vais plus parler d'intuition, qui est quelque chose que tout le monde peut connaître, peut ressentir. Et donc, l'idée, c'est que c'est vraiment ouvert à tous, qu'on soit très intellectuel, qu'on soit très intuitif ou au contraire très empathique. L'idée, c'est d'avoir des concepts qui sont clairs et puis plein de jeux pour aider les gens où est-ce qu'ils en sont. Mais c'est vrai qu'au début, j'en parlais un tout petit peu et puis je savais pas trop comment me positionner pour pas que ça fasse peur et en même temps pour pouvoir dire ce que je fais. Donc, ça a été un peu un challenge de savoir comment me positionner et comment en parler, quoi.
Comment t'as géré, du coup?
Je pense que c'est peu à peu, en fait. C'est d'oser en parler peu à peu avec les bonnes personnes jusqu'à ce que je m'autorise, en fait, à dire qui je suis ou moi, quelles sont mes croyances, parce qu'après, chacun a ses propres croyances. Et il y a vraiment plus, moi, j'accueillais qui j'étais et j'osais en parler, plus c'était simple pour les autres d'accueillir aussi qui j'étais ou de pas accrocher ou d'accrocher. Ce qui fait que même dans les relations, tu vois, amoureuses, là, je suis avec mon amoureux, avec mon compagnon depuis un an. Et dès le début, c'était clair, quoi. J'étais là, bon, bah, je rentre d'un voyage au Kenya où j'ai appris aux personnes à communiquer avec les animaux. Et tu sais, on était dans un lac. Et puis là, il commence à s'éloigner. Et je lui dis, tu t'éloignes. Il me dit, non, pardon, excuse-moi, je reviens. Enfin bon, c'est quand même un peu bizarre.
Mais, mais c'est sûr que c'est, quand tu deviens toi, ça crée du tri, naturel ou pas forcément qui est naturel, mais qu'il faut arriver à assumer dans son entourage, que ce soit amical ou amoureux, parce que, en effet, quand tu as été une personne, en fait, aux yeux des autres toute ta vie et que d'un coup, tu deviens pour eux une nouvelle personne, mais en fait, en vrai, t'es toi, en fait. Ça peut être compliqué.
Alors, moi, ça a toujours été, me suis toujours sentie un peu décalée, un petit peu folle, un petit peu, tu vois. Donc, ça, les gens qui me connaissent, ils le savent. Et pour moi, c'est OK de ne pas parler, on va dire, spiritualité ou intuition avec tout le monde. Donc, j'ai des amis qui sont pas du tout dans ce domaine-là. Et en fait, je m'éclate quand même avec eux. J'ai de la joie. Donc, j'ai compris au fur et à mesure qu'il n'y a pas besoin d'échanger avec les personnes, avec tout son arc-en-ciel. On peut juste, tu vois, choisir une couleur, choisir business avec une personne, choisir spiritualité avec une autre, ou juste relation, ou juste connexion à la nature, ou juste rigoler. Et c'est OK que tout soit pas partagé. Après, c'est vrai qu'avec les personnes qui sont les plus proches, bah, c'est très agréable d'avoir cet arc-en-ciel. Et c'est vrai que dans ma relation amoureuse, pour moi, c'était important au moins que l'autre personne ait cette ouverture d'esprit d'accueillir qui je suis.
Oui. Et quand tu dis un peu folle, c'est dans quel sens?
Bah, c'est vrai qu'après, moi, j'ai eu le divorce de mes parents vers 13 ans qui a fait que une fois par semaine, je sacapotais dans le sens où je pétais un plomb, tu vois. Donc, j'avais testé plusieurs manières de réussir à me calmer, mais ça n'avait pas marché. Et mon père m'a emmené faire des constellations familiales, qui est une thérapie familiale. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux. Et c'est là où je me suis dit, en fait, toutes mes perceptions que j'ai, elles sont justes, même si dans la vie réelle, les gens n'ont pas cette honnêteté ou cette authenticité de dire que c'est vrai. Et donc, ça a été vraiment une grande ouverture pour moi. Et donc, après, je me suis intéressée beaucoup à la psychothérapie alors que j'avais 14-15 ans. Et que c'était pas les mêmes sujets que mes amis. Donc il y avait certains proches qui savaient que j'étais passionnée par ça. Et voilà, c'est pour ça que je dis j'ai toujours été un petit peu décalée par rapport au alors est-ce qu'il est amoureux de toi? Est-ce que tu as réussi ton devoir de maths? Tu vois, j'avais ça mais pas tant que ça quoi.
Et t'es décrit comme médium, du coup tu as, entre guillemets, alors ça, justement c'est un débat que j'ai eu avec Franck Lobvec, tu connais sûrement, et qui disait qu'en fait tout le monde était médium, mais qu'il y avait des gens qui avaient parce que je lui disais, mais du coup est-ce que t'as un fluide parce que sa mère était médium? Il me disait, mais en fait tout le monde a le fluide, mais en fait il demande qu'à être activé. Toi c'est quoi ta...
Ma vision?
Ouais.
Pour moi, on a tous l'intuition, donc on a tous une partie à l'intérieur de nous qui a cette sagesse intérieure, qui peut être à l'écoute de cette voix intérieure. Et après, ça va dépendre un peu. Moi, j'ai identifié qu'il y avait 4 profils différents. On a le profil intellectuel qui va faire passer le raisonnement et la logique avant tout. On a le profil empathique qui a une connexion magnifique avec tout ce qui l'entoure, les animaux, les personnes, mais pense pas à elle et donc fait passer les autres avant elle. Donc, elle a de l'intuition, mais elle la suit pas parce qu'elle s'autorise pas. Ensuite, on a les personnes intuitives. Intuitives, c'est qu'elles ont plein d'intuitions, mais elles ont peur d'être différentes ou elles ont peur de briser les règles. Donc, elles vont éviter de... Soit elles la suivent et donc là, il y a le tapis rouge qui s'ouvre avec plein de créations, de rêves, etc. Soit elles la suivent pas et donc elles restent un peu dans ce, dans cette prison un petit peu dorée. Et ensuite, on a les personnes connectées ou ce qu'on appelle hypersensibles. Et là, en fait, c'est comme si tous les canaux étaient ouverts, mais ça fait peur. Donc, à certains moments, ils les bloquent. Et donc, il y a certaines personnes qui me disent, bah, moi, je ressens rien. Alors qu'en fait, c'est juste de la peur de les ouvrir. Et donc, en fonction de notre profil, en fait, on va développer certaines compétences, certains talents qui vont être différents et on aura certains challenges. Et donc, moi, j'étais dans la catégorie, même si on en a deux, hein, mais vraiment celle de base, pour moi, c'est l'hypersensibilité. Ce qui fait que c'est l'inverse pour moi. J'ai l'impression d'avoir une radio qui est au-dessus de moi et qui capte plein de choses. Et là, c'est dire, OK, comment je peux être moi? Comment je peux être centrée et calme, même si de temps en temps, je reçois des informations? Et après, on a les cinq sens. Donc, on a le visuel, où on voit des images. On a le kinesthésique, on va sentir comme un frisson dans le dos. Et on a l'auditif, où on peut entendre. Et donc, c'est pour ça qu'on va dire, tiens, je suis clairvoyant. Donc, en fait, je vois facilement des choses. Clairaudient, j'entends, clairsentient. Et après, là, c'est moins développé, mais on a aussi le gustatif et l'olfactif. Et après, on parle beaucoup de clairsentience. Ça veut dire qu'on le sent, ou la clairconnaissance. Et en fait, c'est quand il y a plusieurs canaux qui sont activés, là, l'esprit se dit, bah oui, c'est bon, je le sais, quoi. Parce que tout s'enchaîne. Et donc, chacun a un canal ou deux qui sont ouverts. Et comme disait Franck, c'est qu'en fait, ça se développe. On a toujours ça à l'intérieur de nous. Et c'est juste de la pratique et du jeu de pouvoir le développer.
Et dans la médiumité, tu arrives à parler avec des âmes ou...
C'est ça. Donc, je peux me connecter à une personne et entendre le message de son âme. Donc, c'est un peu bizarre, mais ça va être pareil avec les animaux, ça va être pareil avec les arbres. Et donc, il y a ce côté où c'est comme si tout était énergie et que je pouvais me connecter à une énergie pour entendre son message.
Et est-ce que tu arrives à communiquer avec des âmes défuntes?
Alors, je ne le fais pas souvent parce qu'elles ne sont vraiment pas là. Donc, c'est que occasionnellement, s'il y a une personne à côté, mais... Pour moi, je préfère laisser les personnes qui sont parties en paix et être plus là avec les vivants, aider les vivants à sentir en vie, même si les autres sont partis, quoi.
Et par exemple, tu es capable d'identifier, alors je sais qu'on va en perdre certains, mais c'est pas grave, si par exemple, tu as une âme qui est collée à un vivant, en fait.
Alors, ça arrive, c'est souvent dans le cas où, par exemple, c'est des personnes qui ont perdu des enfants. Donc, des fois, je vois les enfants qui sont collés aux parents. Et après, ça va être, par exemple, s'il y a des armes, je vois les comme si c'était les entités qui étaient encore collées à l'arme, ou après dans des maisons. Mais en fait, ça arrive plus quand ça arrive, quoi. Je ne le cherche pas.
Ouais. Et est-ce que c'est une de mes amies qui avait cette théorie et qui, à date, c'est toujours vérifié que les personnes qui arrivent à communiquer, surtout avec les défunts, c'est des personnes qui ont eu une mort imminente dans leur vie. Est-ce que toi, tu as eu une mort imminente dans ta vie?
Non, je pense qu'après, il y a plus ce côté, c'est comme si, en fait, il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal. Donc, on a une sorte d'ouverture d'esprit sur les entités. Moi, au début, ça me faisait peur. Et puis maintenant, après, il n'y a plus cette notion-là, il y a juste cette notion de dire « Ok, je suis en vie pendant un moment et à un moment, en fait, je passe ce passage de la mort. » Après, en fonction de ce qu'on croit, bah, est-ce que notre âme, elle continue et elle revient après sur Terre ou pas? Mais pour moi, l'important, c'est qu'on soit tous en paix avec notre mort, qu'on meure demain ou qu'on meure dans 50 ans. Quoi.
Ouais.
Donc, j'ai pas eu d'expérience de mort imminente, mais j'ai une profonde paix, en fait, avec ma mort.
Ouais. D'accord. Parce que tu vois, j'en parle. Enfin, c'était drôle parce que quand elle me racontait ça, elle me racontait plusieurs exemples et dans mon entourage proche, j'ai deux personnes qui font des rêves prémonitoires, mais enfin vraiment qui ont justement cette médiumité, mais qui ne, travaille pas, et même au contraire, je pense à notamment une personne qui prend des somnifères et qui casse en fait, qui casse tout ça, parce qu'en effet il a vu des personnes mourir, et ces personnes sont mortes dans la semaine qui suit, enfin des gens qui étaient en bonne santé ou quoi. Et ces deux personnes, tu vois, dans mon entourage très proche, et donc j'en ai parlé avec eux, et les deux m'ont dit, bah oui, en effet, moi j'ai failli mourir, enfin en gros je me suis vue monter au-dessus de la table d'opération quand j'étais tout petit, une autre amie pareil, et c'est fou de se dire en fait que dans notre entourage on a pas mal de personnes qui ont ça, mais c'est un truc où ouais, ça leur fait ouais.
Puis on n'en parle pas, quoi. Tu non. vois, c'est vraiment pas, c'est un truc qui est flippant, on sait pas à qui en parler, et puis il y a vraiment. Pour moi, c'est important, tu vois, dans ce que je fais, de continuer à garder cette joie d'être en vie. Ouais. Et il y en a beaucoup, ça devient pathos, en fait. Donc, pour moi, il y a vraiment... Après, là, j'accompagne dans un groupe plus privé, le Cercle Origine, des personnes qui ont ces flashs, qui ont ces visions-là, parce qu'elles ne savent pas comment l'ouvrir. Et puis, c'est surtout qu'on croit que c'est difficile, que c'est plus un fardeau. Tu vois, moi, je le voyais plus comme un fardeau d'être une éponge émotive, d'être trop sensible, de ressentir des trucs que les autres ressentent, mais en même temps, ils disent qu'ils vont bien. Donc, au bout d'un moment, je suis là, bah, c'est moi, c'est vrai, c'est faux, tu vois. Donc, on lui est un peu folle là-dedans. Et d'accompagner ces personnes-là, là, ça débute vraiment cette semaine. Moi, ça me fait du bien parce que, en fait, moi, je l'ai transformé en don. Je l'ai transformé en quelque chose où je vois la vie avec magie, où je peux avoir du... Voilà, pour moi, je dis, c'est comme si je vivais dans un trèfle, un champ de trèfle à quatre feuilles, tu vois, parce que je vais avoir un rêve, je vais le réaliser, j'aide les gens à se reconnecter à eux, j'ai plein de dons que les gens peuvent développer, mais que je l'utilise pour les autres. Et je trouve ça chouette de dire, tiens, je peux avoir des facilités à communiquer avec l'au-delà ou avec d'autres choses. Et après, c'est de l'orienter et puis d'apprendre à s'en servir tout en étant connecté à soi et dans cette joie-là, quoi.
Ouais. Et j'imagine que tu dois forcément rencontrer des gens qui sont sceptiques. Comment, ouais. Comment tu le vis quand ça...
Bah, c'est OK. Après, pour moi, il n'y a pas de... Je pense que chacun a ses propres croyances. Je ne vais pas essayer de convaincre une autre personne que moi, je crois en l'âme et que je crois en une partie à l'intérieur de soi qui est immortelle. Pour moi, chacun a ses propres croyances et puis... Comme ça, moi, je reste humble et puis la personne, elle n'est pas en conflit puisque chacun a ses propres croyances là-dessus. Ouais.
J'ai le sentiment, tu vois, par rapport à tout ça, par rapport à la mission de vie, par rapport à justement la connexion avec l'âme, que tous ces sujets-là, on en parlait avant, mais qu'il y a un moment dans notre civilisation, l'ère industrielle, où on a arrêté, on a mis tout ça en mode c'est, dans la case de « c'est pas bien ». Et que là, maintenant, ça revient et qu'il y a comme le bon sens par rapport à tout ce qui est écologie. Finalement, il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui que nos grands-parents faisaient. Et j'ai l'impression que ça fait partie un peu de ce retour aux sources.
Je pense que l'effet Covid aussi nous a fait un petit choc parce que les personnes se sont rendues compte qu'un jour, elles vont mourir. C'est comme si l'esprit mettait ça de côté. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup après de coaching. OK, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon métier idéal? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis au bon endroit? Donc, je pense que c'est un côté positif, même si par rapport à la liberté, par rapport à plein d'autres éléments, c'est vraiment néfaste. Mais il y a vraiment ce côté de dire, ah, en fait, je suis mortelle. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et donc là, ça crée quand même un petit... choc d'ouverture sur la vie est essentielle et qu'est-ce que je veux faire de ma vie aujourd'hui, quoi.
Ouais. Et quand tu as lancé donc ton blog en 2011, pareil, le blog, c'était pas quelque chose... Enfin, aujourd'hui, c'est hyper courant d'avoir des blogs. À l'époque, un peu moins. On en parlait justement avec Charlotte Ducharme, que tu connais peut-être. Et Charlotte, elle me disait, bah voilà, quand elle a lancé son blog, elle me disait, mais j'étais la honte de la famille, j'avais un blog, quoi.
Ah, c'est vrai. Non, moi, ça allait. Non, c'était quand même encore... tu vois, je l'ai lancé en 2011. Il y avait déjà quelques...
C'était, ah oui, elle, ouais.
Ça va. Non, ça va. C'était pas la honte de lancer un blog. Après, ma mère, elle est pas du tout dans ce milieu-là. Donc, c'est sûr que... je pense qu'elle a quand même cette ouverture d'esprit d'accepter que je suis dedans, même si elle comprend pas. Et je pense qu'elle est fière de mon parcours, même si elle sait pas du tout ce que je fais. Et là, je suis passée récemment à C8. Et donc, elle a regardé l'émission et je dis, ah, c'est un peu perché. Maman, elle me dit, oui, mais quand même, bon, on n'a pas tout compris, mais c'était quand même bien, t'étais claire, t'étais non, non, ça va, je suis fière de toi. Donc, tu vois, je suis contente aussi d'arriver dans une relation où même si mes proches, en fait, n'ont pas les mêmes croyances que moi, en fait, je peux quand même partager certains éléments avec eux, quoi.
Donc, ça, c'est chouette. Contente. Et à partir de quand, du coup, tu as décidé de quitter ton poste chez Skyrock?
Alors, j'ai dû m'armer de patience. En fait, j'aimais beaucoup travailler chez Skyrock. Je trouvais que c'était... il ne faut pas le dire, mais c'était fun. Il ne faut pas le dire devant le DG, mais c'était fun quand même. Non, c'était très rigolo, c'était très créatif. Je travaillais avec des gens que j'adorais. Ce qui me manquait, c'était donner du sens. Pour moi, je aider les gens à écouter la radio, aider les gens à se rencontrer amoureusement autour de soi, géolocaliser. Je trouvais qu'il n'y avait pas de sens là-dedans. Et à un moment, j'ai échangé avec une personne qui faisait venir les Ruiz des Alcor Toltec. Et puis, il y avait aussi Olivier Leclerc du Cercle du Pardon. Et donc, j'ai échangé avec lui qui organisait ça. Et je dis, ah, j'adorerais travailler pour quelqu'un dans la spiritualité. Et il me dit, en fait, Sarah, ça marche pas. Il n'y a pas assez de monde, en fait, qui est dans cette branche-là. Donc, en fait, c'est que si toi, tu as un don, tu peux te lancer, mais sinon, tu ne pourras pas travailler pour un autre, quoi. Et j'étais mais super déçue parce que je me suis dit, j'adorerais travailler dans la spiritualité, mais pas forcément moi, me mettre en avant. Et donc, ça, voilà, j'étais vraiment déçue pendant quelques jours. Et puis, au bout d'un moment, je dis, bon, écoute, j'ai quand même un petit don là de pouvoir me connecter à une personne et entendre le message de son âme. Est-ce que moi, je me lancerais pas dedans? Et c'est là où, peu à peu, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vendre des prestations? Qu'est-ce que je peux faire pour proposer quelque chose? Et par la suite, j'ai eu un mentor, Laurent Chenot, qui m'a appelé et qui m'a dit, écoute, Sarah, tu devrais lancer une conférence en ligne où tu apprends aux personnes à communiquer avec leur âme ou leur intuition. À l'époque, c'était l'âme. Et donc, je me suis dit, OK, je vais tester ça. Et 4 mois après, parce que ça a mis un peu de temps, j'ai lancé cette conférence. Et puis, ça a super bien marché. Et c'est là où je me suis dit, OK, je peux trouver, en fait, une stratégie qui me permet de pas m'épuiser, parce que si je fais que des lectures d'âme, ça m'épuisait. Et de vraiment aider les gens, en fait, à se reconnecter à eux sans que ça passe forcément par moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus ouvert, en fait, cette partie-là. Et dès que j'ai eu ma stratégie, je dis, OK, je lance une formation sur comment vivre sa mission de vie. Et c'est là où j'ai fait mon départ chez Skyrock et que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat.
Donc là, t'avais réussi à faire une rupture conventionnelle pour pouvoir avoir le chômage?
Oui, j'ai réussi à faire une rupture conventionnelle et heureusement, parce que c'est vrai que c'était pas forcément évident de se lancer, ça m'a permis, en fait, d'avoir au moins 6 mois pour affiner, en fait, ma stratégie et puis me réadapter à un métier qui était pas, je me lève tous les matins, je bosse et puis j'arrête le soir et puis je redémarre le lendemain. Il y a eu vraiment pendant 3-4 mois un challenge de dire, en fait, si je suis stressée, ça marche plus. J'ai plus d'intuition, j'ai plus d'inspiration, je peux plus créer du contenu. Et donc là, ça a été dur pour moi de me dire, faut d'abord que je prenne soin de moi avant de pouvoir apporter quelque chose aux autres. Et c'est vrai que là, j'ai mis 3-4 mois à comprendre ce principe-là, que je pouvais faire une pause un mardi après-midi, pas bosser tout le temps. Tu vois, c'était un peu bizarre.
Donc, c'est un vrai défi d'entrepreneur et je pense encore plus féminin, de se dire, en effet, arriver à se dire... je bosse pas cet après-midi, c'est OK. Tu vois, on en parlait avec Gaëlle Baldassari qui a lancé Kiffe ton cycle et qui dit, encore plus, on est des femmes. Il y a une période dans ton mot. Il y a les saisons, mais il y a aussi le cycle menstruel et puis le cycle même de l'humain tout court et de se dire, OK, t'es malade, t'as juste un petit coup de down, c'est OK, quoi.
Mais exactement. Mon père, en rigolant, il me faisait des mots d'autorisation. Parce que quand j'avais pas envie d'aller à l'école, au lycée, il me faisait des mots, tu vois, j'avais migraine, j'avais d'autres choses, quoi. Et donc là, en rigolant, il me dit, attends, je t'autorise, tu vois, à pas travailler cet après-midi. Et dans mon cercle Connect, c'est un abonnement en ligne. Maintenant, chaque mois, je donne un mot d'autorisation. Et les gens, ils adorent, c'est un mot d'excuse, tu vois. Genre, je peux prendre soin de moi, enfin, voilà. Donc ça, c'est assez drôle.
Ouais, tu transformes le truc en effet en jeu.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Une fois encore.
Mon père, il me disait, tiens, t'as qu'à culpabiliser 5 minutes et puis après, tu profites toute l'après-midi. Et je dis, ah oui, je vais faire ça. Donc, tu vois, je culpabilisais à fond. Et après que j'ai culpabilisé, j'ai dit, OK, maintenant, je peux profiter, quoi.
Et à ce moment-là, quand tu t'es lancée, c'était quoi tes peurs?
C'était bizarre. J'avais fait un séminaire, genre, allez, peut-être 5 mois après m'être lancée, parce que je suis partie en mai. Le séminaire était en octobre. Et il disait, notez, en fait, qu'est-ce qui vous fait le plus peur. Et moi, j'avais noté en redevenir salarié, tu vois. Et j'étais là, mais pourquoi t'écris ça? Mais je pense qu'il y avait ça. La plus grosse peur, c'est de pas y arriver. C'est de pas assez gagner d'argent. Et après, les peurs, elles changent. À un moment, la peur, c'était de dire, mais en fait, l'idée, c'est pas de travailler tout le temps. Donc, c'est comment réussir à trouver un équilibre entre mon boulot et mon perso. Je pense que c'est ça, la plus grosse peur. Et puis, peu à peu, de toute façon, plus on évolue, plus on gagne de l'argent, plus on va passer des stades. Donc, il y a toujours ce côté, bah, après, j'embauche une personne ou je fais appel à quelqu'un. Donc, comment s'organiser, comment. Donc, c'est accepter qu'il y ait plein de stades d'évolution. Et qu'il y a certaines peurs qui sont utiles parce qu'elles permettent aussi de passer aussi dans un mode de réflexion, de dire, OK, bah, je vais surveiller ma trésorerie. Comment je vais faire? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Donc, on apprend toujours. Et après, il y a des peurs qui sont plus utiles de dire, bah, en fait, tu verras comment ça se passe, quoi.
Donc, ça s'est passé comment, du coup, le recrutement? T'as des salariés, du coup, ou tu bosses avec
alors,
des personnes?
Alors, c'est pas des salariés, c'est des indépendants. En fait, toutes les personnes avec qui je travaille, à un moment, j'avais proposé à l'une ou deux d'entre elles, elle me dit non, moi, je suis bien indépendant, je veux pas être salariée. Donc, là, je travaille avec des prestataires, mais c'est toujours les mêmes prestataires. Et donc, en fait, c'est comme si c'était une équipe. Elles travaillent pour d'autres personnes, parce qu'elles aiment aussi cette richesse. Ou sinon, elles travaillent pour elles. Moi, c'est ça aussi que j'adore, c'est que, par exemple, ma responsable opérationnelle, Irène, elle anime aussi des conférences sur la motivation, elle accompagne des personnes à côté. Donc, il y a vraiment ce côté où j'aime aussi soutenir la personne dans ce qu'elle vit et voir aussi comment je peux l'accompagner à grandir. Donc, ce n'est pas que travailler pour moi, quoi.
D'accord. Et donc là, quand tu as commencé à être entrepreneuse, donc tu vivais à Paris?
Oui.
Donc, tu nous disais au début de l'interview que ça a évolué, donc que tu as bien voyagé. Comment ça s'est passé, du coup?
Bah, de base, c'est vrai que j'aime voyager, sauf que j'avais que 5 semaines par an. Et là, je me suis dit, bah, en fait, je peux travailler de là où je veux, du moment que j'ai du Wi-Fi. Donc, je suis partie quelques semaines voir une amie à La Réunion. Et là, j'ai adoré être là-bas. Donc, je suis retournée plusieurs fois jusqu'à y vivre pendant un an. Maintenant, j'y vais 1 à 2 fois par an, 1 à 2 mois, en dehors de cette année un peu particulière. Et ouais, je continuais. J'allais voir une amie qui était à Boston. J'allais en Italie voir des amis ou en Espagne. Et puis, ça a commencé à être un petit peu mon mode de vie, mais je revenais quand même à Paris jusqu'à ce que je quitte mon appart à Paris et j'aille vivre à La Réunion. Et là, pour moi, après, ça a été l'opportunité de dire, bah, en fait, je peux vivre là où je veux. Et j'ai eu un appel pour aller faire un stage en fait chez Shaman Maori en Nouvelle-Zélande. Et c'est là où j'ai rêvé et je me suis dit, OK, Nouvelle-Zélande, il y a la Nouvelle-Calédonie à côté, j'ai de la famille éloignée là-bas, je pourrais y aller. Et puis, elle Vanuatu, c'est des îles paradisiaques, j'aimerais trop y aller. Et donc, il y a eu voilà, une sorte de rêve, tu vois, sur ma terrasse à La Réunion de tout ce voyage-là. Et en même temps, à l'intérieur de moi, une partie qui disait, mais Sarah, tu ne sais même pas aller au resto toute seule, quoi.
Pourquoi?
Ben, je sais pas, ça me faisait peur. J'avais
ah oui, tu veux dire, de te retrouver toute seule à la terrasse d'un restaurant.
Ah non, ça, je détestais, tu vois. Je me disais, ah, mais ça doit être triste, les gens qui mangent seuls. Ou même prendre l'avion toute seule, tu vois, j'aimais pas. Et donc, j'avais quand même ce côté, d'un côté, j'avais envie de rêver et de voyager seule. Et puis, de l'autre, je m'en sentais pas capable. Et puis, naturellement, ça vibrait tellement, moi, ce rêve-là, que je me dis, OK, tu vas trouver les chemins pour le faire, quoi. Et donc, le fait de partir, donc, en Nouvelle-Zélande, faire ce stage, et ben après, j'ai visité, j'ai voyagé pendant 5 mois en Océanie, en Asie. Et après, quand je suis rentrée, je me dis, OK, j'habite où, quoi? J'habite à Paris, j'habite La Réunion, qu'est-ce que je fais? Et en fait, j'ai continué à voyager comme ça pendant 3 ans. Et c'était un peu bizarre parce que d'un côté, j'adorais ça. Et puis, c'est vrai qu'il y avait une partie de moi où même les gens qui me disaient, mais tu voudrais pas te poser un peu? T'es quand même un peu instable, tu vois, tout le regard un peu. Puis j'étais là, bah écoute, ça vient pas quoi pour l'instant, donc je continue. Et jusqu'à un moment où je me suis dit, j'allais beaucoup à Lyon, donc je vivais juste 2 mois, une fois, quelques semaines. Et je me suis dit, OK, un jour, j'ai envie d'habiter à Lyon. Et je me suis dit, j'ai envie d'acheter quoi. Et donc, j'ai commencé à chercher. Et 3 jours après, j'ai trouvé mon appart. Et là, j'ai eu un pied-à-terre, on va dire, pendant 3 ans. Et j'ai continué à voyager en ayant un pied-à-terre où je restais 2-3 mois par an à Lyon.
D'accord. Et quand à cette époque-là, du coup, tu étais célibataire?
Ouais, je suis restée quand même longtemps célibataire. Je pense que le fait de voyager, ça n'a pas aidé à rencontrer du monde, où je rencontrais un peu sur la route. Et puis, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté-là, je pense, d'apprendre. Comme j'ai un fort côté empathique, je pense que j'ai appris aussi à honorer le destin de chacun et à vraiment vivre ma vie et oser me lancer dans ce qui me passionne avant de rencontrer quelqu'un. Donc, même si sur le coup, j'étais là, bon, il est où là? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai rencontré où? Et en même temps, c'est de dire non, non, je lâche prise et j'ai confiance, tu vois. Je me répétais souvent, j'ai confiance. J'ai confiance en ce qui me guide. Et puis, quand ça sera le moment, je le trouverai. Alors, en rigolant, je me dis, ah, il doit déjà être en couple. C'est pour ça qu'on ne peut pas être ensemble, tu vois. Et c'est qu'à la sortie du premier confinement, où là, j'étais revenue d'un stage au Kenya chez ma mère et mon beau-père. Et donc, en fait, j'étais confinée avec eux pendant 2 mois. Et j'ai adoré cette période-là. Tu vois, on faisait du yoga. Je mangeais super bien. Moi, je travaillais de mon côté. Enfin, j'étais bien. Puis, j'avais ma petite bouillotte tous les soirs, tu vois. Et quand je suis rentrée à Lyon en échangeant avec une copine, je suis là, non, mais là, il faut que j'arrête, quoi. J'ai plus de 35 ans. Ma mère me prépare ma bouillotte. Il faut que je m'inscrive sur un site de rencontre. Et après, bah, le troisième rendez-vous, c'était Julien. Et c'est là où on a bien accroché. Et donc voilà, là, ça fait un an et demi. Et donc, c'est chouette. Là, on habite ensemble en Suisse. On va acheter une maison. Enfin, c'est l'aventure autrement, quoi.
Ouais, c'est ce que tu disais. C'est que du coup, à la base, vous étiez parti pour rester ensemble à Lyon. Et, oui. Et que ton intuition t'a emmené en Suisse.
C'est ça. C'est un peu bizarre parce que moi, je joue beaucoup avec ce côté que j'appelle l'univers. Et donc, lui, il vivait en Suisse et moi, plus ou moins, on va dire, à Lyon. Et j'étais là, j'aimerais bien être plus à Lyon. Et donc, on a échangé. Moi, je veux un appart. Lui, il veut une maison. Donc, on avait trouvé une maison qui était proche de Lyon et qui était magnifique par un architecte. Et on ne l'a pas eue, tu vois. Et c'était des Anglais qui avaient mis genre 500 euros de plus par mois en location. Et je me suis dit, il y a un truc. Si on ne l'a pas eu, c'est qu'il y a un truc, c'est que ce n'est pas pour nous. Et c'est là où je me suis dit, mais est-ce que je veux vraiment vivre à Lyon ou pas? Et je suis allée voir des amis, Christian Junot, qui lui a beaucoup sur la relation avec l'argent. Et la troisième fois que je suis allée chez eux, en fait, j'ai regardé autour et je me suis dit, tiens, là, en fait, j'ai vraiment envie d'habiter là, quoi. Je me verrais habiter là. Et donc, on rigole parce qu'on cherche encore des maisons à Lyon. Et il me dit, mais ça n'a rien à voir avec Lyon. Et je dis, oui, mais en même temps, pourquoi pas? Et après, en fait, c'était une petite chanson qui trottait dans la tête de dire, non, mais en fait, je veux habiter à cet endroit-là. Et donc, j'avais ma petite chanson « La maison A, B », tu vois. Bon. Donc là, ce soir, on revisite cette maison-là pour faire une offre et l'acheter. Donc, c'est chouette.
On touche du bois, du singe.
C'est ça. Ouais. Ouais. Il y a vraiment ce côté « jeu », quoi. Ce côté dire « je veux ». Il y a un petit côté aussi impatience parce que c'est comme si je dis « ok, j'ai envie d'habiter là. Donc maintenant, univers, aidez-moi à trouver la maison de mes rêves ». Mais en même temps, je sais que si c'est pas pour moi, je sais reprendre cette distance-là et dire, OK, qu'est-ce qui me fait vibrer, en fait, à l'intérieur de moi? Moi, il y a beaucoup ça. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et si c'est le cas, j'y vais et j'ose partir à l'aventure parce que ça vibre en moi.
Ouais. Et regarder les signes qui t'emmènent vers la maison qui est pour vous.
C'est ça, ouais, 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 exactement. Même si ça passe par une autre maison qu'on est en train de louer, ou tu vois, après, c'est un peu. C'est obligé. On se sent après obligé d'être dans cette fluidité, cette flexibilité, parce qu'il y a comme si c'était un chemin qui se traçait devant nous et qui ne correspond pas aux règles qu'on avait établies à la base, quoi.
Ça, je pense que c'est un truc qui est vachement, vachement intéressant parce que, tu vois, moi, je sais que depuis 2 ans maintenant, je suis très portée sur la loi de l'attraction, j'ai mon petit tableau de visualisation et tout. Et, ouais. Et clairement, dans mon environnement, il y a pas mal de personnes très pragmatiques qui me regardent avec des yeux genre, Charlotte, on t'a perdu. Et en fait, tu vois, quand on regarde l'année qui vient de se passer, les gens ils n'arrêtent pas de nous dire oh, mais t'as une chance de malade, enfin tu vois, enfin ouais. En gros des trucs genre ouais t'as vachement de chance, enfin et Et si tu regardes avec un regard extérieur, oui, tu te dis, on a réussi à avoir une place de parking dans un endroit, apparemment, il y avait une liste d'attente depuis 5 ans. Nous, on est arrivés pile poil le jour où la place était dispo, et bing, ils nous ont passé la place de parking. Enfin, plein de trucs comme ça où tu te dis, oui, c'est de la chance, mais finalement, c'est aussi de la chance provoquée, clairement. Et puis finalement, quand tu es au bon endroit, au bon moment et que tu es qui tu es, que ça fait du sens, c'est beaucoup plus fluide, mais tu arrives aussi à accepter des choses que d'autres n'auraient pas acceptées non plus.
Oui, il faut accepter cette... Il y a vraiment ce côté fluide et en même temps, il y a ce côté flippant parce qu'on ne peut pas se raccrocher à quelque chose. Donc, il y a juste cette foi en intuition, en ce qui nous guide et que voilà, c'est toujours un peu en mode aventure. Moi, je suis toujours un peu dans ce mode-là, même s'il y a bien sûr quelques habitudes, mais j'en ai très, très peu. Il y a toujours, je pars à l'aventure. Et à un moment, on discutait de ça avec une amie. Et elle me disait, ah, j'aime pas quand on dit que j'ai de la chance, tu vois. Et en fait, moi, j'adore quand on me dit j'ai de la chance. Je dis, ouais, j'ai plein de chance, tu vois. Enfin, moi, je vis dans un champ de trèfle à quatre feuilles et c'est OK. Parce que ça me va, même si je bosse dur à côté. C'est OK. Moi, j'adore avoir de la chance et je veux en attirer encore plus, quoi. Donc, oui, j'ai plein de chance.
Et tu vois, j'ai un ami, quand je lui parle de tout ça, la loi d'attraction et compagnie, il me dit, moi, j'aime pas ça parce que j'aime pas cette idée parce que j'ai l'impression que les choses sont écrites et donc, du coup, j'aime pas ça. Qu'est-ce que tu lui répondrais?
Pour moi, c'est un mélange. C'est un mélange entre c'est quoi mon destin, en quelque sorte? C'est quoi ce que je suis censée faire ou qu'est-ce que mon intuition, mon âme me guide de faire. Et il y a l'autre où on a toujours ce libre arbitre. Donc, on a toujours ce côté. Pour moi, l'intuition, elle m'aide à avoir des projets. Par exemple, à un moment, un de mes rêves, c'était d'écrire 7 livres, tu vois. Et j'ai dit, Sarah, jamais, tu vois. Et pour moi, je voyais mon père qui écrit beaucoup de livres, mais qui a galéré à trouver des fois des maisons d'édition, ça prend du temps. Et je dis, non, j'ai pas envie, quoi. Mais ça vibrait quand même à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que 6 mois plus tard, quand un éditeur Hachette m'a proposé d'écrire un livre et que moi, j'ai juste présenté le sommaire et qu'ils m'ont dit « c'est parti, t'as 4 mois », tu vois, j'étais là en mode « ah !» et en même temps « yeah !» tu vois, donc c'est un mélange. Mais il y a toujours ce libre arbitre de dire « est-ce que j'accepte ou non ?» J'aurais toujours pu dire non. Et donc, il y a quand même la loi d'attraction, c'est sûr que c'est très simplifié parce qu'elle ne prend pas en compte le fait qu'aussi on lâche prise à certains moments et qu'on veut absolument quelque chose et on ne l'a pas. Tu vois, moi, je voulais être maman depuis que j'ai 16 ans et je ne suis pas encore maman. Et là, on a ce projet-là. Mais je ne sais pas, tu vois. Mais il y a quand même ce côté où, OK, je lâche prise et que j'accepte que c'est OK que je ne sois pas maman, mais qu'au moins, moi, je fasse la paix avec. C'est pas fini, c'est possible que je le sois encore. Mais il y a vraiment... C'est un mélange, en fait. C'est un jeu. À certains moments, on a des choses qu'on veut. À des moments, on ne l'a pas. Donc, on patiente, on lâche prise, tu vois. C'est vraiment une danse, en fait, un peu plus avec l'univers, quoi.
Ouais. C'est quoi ton astuce pour écouter ton intuition?
Pour moi, c'est faire le calme. C'est vraiment, c'est le premier pas. Je le partage dans mon premier livre. C'est vraiment la première porte. C'est calmer son esprit, c'est se centrer. Et ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de pratique. Donc, ça va être poser la main sur son cœur et ralentir son rythme. Ça peut être aussi ralentir ses mouvements, marcher tout doucement, se connecter à la nature, faire une pause. Et hop, en fait, ça permet de faire ce vide à l'intérieur de soi qui fait qu'après, j'ai d'autres réponses, j'ai d'autres prises de décision qui viennent. Ouais. Donc, c'est vraiment ça.
Qu'est-ce qui te sert aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneuse, dans ta vie d'avant de marketeuse?
Je pense que c'est organiser les projets. C'est d'avoir cette faculté de ne pas être que avec mon intuition, mais aussi être dans ma réflexion. Et donc, j'aime jouer avec les deux, quoi. Après, il y a aussi ce côté où même si je ne suis pas une pro de l'organisation, j'ai appris à m'organiser et c'est surtout le côté... j'ai appris à conceptualiser. Et c'est ça aussi qui m'a permis d'écrire mon livre, le premier sur les 5 étapes, parce que j'ai voulu l'orienter vraiment côté pratique. Et donc, c'est de dire, OK, c'est quoi les 5 étapes? Et puis, à l'intérieur de chaque chapitre, c'est quoi qui est important? Tu vois, et je pense que si j'avais pas eu cette structure d'école de commerce ou de marketing, j'aurais peut-être pas réussi à formaliser un peu les étapes.
Ouais. Comment tu célèbres tes réussites?
Ça change à chaque fois. Tu vois, pour moi, c'est toujours un peu différent. Quand j'avais débuté en entrepreneuriat, j'ouvrais toujours plein de bouteilles de champagne, tu vois. Et puis, à un moment, je disais, mais ça va pas être ça quand même. Et à un moment, j'avais fini, alors c'est un peu bizarre, mais j'avais fini une formation qui s'appelle La voix de son chaman intérieur, tu vois. Et je me suis dit, OK, comment je me célèbre d'avoir fini cette formation-là, les contenus? Et ce qui était venu, c'était danser toute nue dans ma salle de bain, tu vois. Et j'étais, ah, bon, OK. Donc, on peut célébrer de manière différente, quoi. Mais je sais que... moi, à chaque fois, c'est différent. Moi, à chaque fois, j'adore me dire, OK, comment je célèbre cette partie-là? Comment... Et ça peut être juste passer un temps avec moi, m'offrir un spa, aller dîner en amoureux, méditer, écrire. Voilà, c'est à chaque fois différent, quoi.
À quel moment dans ta vie, tu t'es dit, pourquoi pas moi?
Je pense que c'est ce moment où cette personne m'a dit, mais tu ne pourras pas travailler en spiritualité pour un autre, il n'y a pas assez de place. Et m'a dit, t'es obligée, si tu dois avoir un don et y aller, quoi. Et c'est là où, quelques jours après, je me dis, bah, OK, pourquoi j'irai pas, quoi? Pourquoi pas moi?
Et c'est amusant parce que quand, en fait, bon, on s'est connus, on est à l'école de commerce et puis on a gardé des amis en commun. Donc, je pense notamment à Marie qui connaît bien une de tes très bonnes amies et Margot. Et toutes les deux m'ont parlé de toi en me disant, mais quand j'ai lancé le podcast, on m'a dit, mais il faut absolument que tu interviewes Sarah et tout.
C'est vrai.
Et donc, je les remercie toutes les deux. Et en fait, c'est drôle parce que tu vois, quand elles m'ont parlé de toi, et donc après, bon, j'ai évidemment été regarder ce que tu faisais. En fait, ça ne m'a pas surpris dans le sens où, pour moi, tu as une espèce d'aura et tu avais quelque chose en plus par rapport aux autres à l'école, en fait. Tu vois ce que je veux dire? En gros, tu n'étais pas... ouais, tu avais un truc en plus, une espèce de lumière et une aura qui était, je ne sais pas, hypnotique. Et je me suis dit, bah
ah
oui.
Ouais. Bah, à cette époque-là, je ne m'en rendais pas du tout compte. Hein. Moi, j'essayais de rentrer dans le moule de l'école de commerce. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, OK, laisse tomber, t'es pas dans le moule, c'est OK, quoi. La première fois, j'étais arrivée avec un pantalon africain. Et il y avait une personne qui était plus âgée qui m'a dit, bah, écoute, t'y arriveras pas. Moi, je l'avais au début, mais après, tu vois, j'ai changé d'habit, quoi. Et je dis, ah bon, ah bon.
Et finalement, tu l'as quitté ou pas ton pantalon d'Africain ou t'as continué?
Bah oui, parce qu'après, on devait s'habiller un petit peu classe quand on était à l'école de commerce. Mais je pense que j'ai pas perdu ce côté un peu créatif, quoi. Je pense que c'est surtout ça qui m'a aidé pendant l'école de commerce où j'avais ce côté créatif et puis je savais que j'étais un peu décalée, tu vois, mes copines elles le savaient, enfin c'était voilà, c'était...
Ouais, elle t'acceptait
ouais, c'est ça. Ouais, c'est que j'arrive mais je pense que c'est aussi toute l'histoire d'une vie, c'est que on s'adapte tellement en fait aux règles extérieures que après c'est sûr qu'il y a certaines parties qu'on oublie et le fait de se reconnecter à elles, on se rend compte que ça a toujours été là et que c'est pas et qu'en plus ça a évolué mais nous on n'en avait pas conscience quoi.
Ouais. Et l'hypersensibilité, t'en as pris conscience quand?
Je pense que je l'avais depuis que je suis petite parce que j'ai des flashs, tu vois, de moi. Dans mon berceau, à regarder, tu vois, des petites lumières autour de moi, à m'amuser. Et mes parents me disaient, mais c'était simple avec toi parce qu'on te mettait dans le lit, puis tu pleurais pas, t'attendais de t'endormir, et pareil le matin. Et ils me disaient que c'était parce que j'avais mon pouce, tu vois. Et moi, j'ai toujours cru que c'était à cause de ça. Je pense que ce qui m'a aidée, c'était vraiment quand j'ai appris les constellations familiales, où là, j'ai compris que mes perceptions étaient justes. Et pour moi, ça a été un vrai soulagement de me dire, mais en fait, tout ce que je perçois, c'est juste. Tu vois, et c'est pas moi qui suis folle ou qui vois des trucs qui n'existent pas. Donc ça m'a beaucoup aidée.
Ouais. C'est quoi pour toi la réussite?
Je pense qu'on n'en a pas, tu vois. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec. C'est juste le fait qu'on est en vie. Et je pense que c'est ça qui est le plus beau, quoi. Sinon, on se met une pression. Et puis, enfin, moi, je suis dans des groupes, tu vois, d'entrepreneurs avec Martin Latulippe, qui est un Canadien. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans tout secteur à l'intérieur. Et en fait, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de réussite. C'est quand tu as des résultats, c'est toi qui dis j'ai réussi ou j'ai pas réussi. Donc, il n'y a pas vraiment de réussite, quoi. Il y a juste est-ce que tu es fier de ce que tu as fait et est-ce que tu as appris quelque chose, même si tu as raté quelque chose, quoi.
D'ailleurs, c'est Franck Lebet dont on parlait tout à l'heure, qui se met très en colère quand tu lui parles de réussir sa vie. Parce que, alors moi, dans la question réussite, c'est pas réussir sa vie, parce qu'en effet, quand tu prends le prisme de ce que dit Franck, ça veut dire que si tu parles de réussir ta vie, ça veut dire que tu peux échouer ta vie. C'est horrible, en fait. C'est vrai, ouais, quand tu dis ça, tu dis, mais oui, non, mais il a complètement raison. Enfin, en effet, c'est horrible de se dire que tu peux échouer ta vie.
Moi, j'aime bien quand il y a quelque chose que j'ai pas eu et que j'aurais voulu avoir, tu vois, que ça soit dans le boulot, dans le perso, mais souvent dans le boulot, quand j'ai un lancement et que je m'attends à avoir tant d'inscrits, je reviens, je prends du recul. Et après, moi, j'aime bien me dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris grâce à ça? Tu vois, et comme ça, c'est comme si ça me permet de donner du sens à ce que j'ai fait. Et ça calme mon esprit.
Ouais. Et dans ton nom de famille, il y a un côté divin. Est-ce que tu penses qu'il y a un signe là-dedans?
Moi, j'aime bien le voir comme un petit clin d'œil de l'univers. Tu vois, diviner. En plus, il y a un accent. Tu vois, en rigolant, je dis, ça me remet un peu les pieds sur terre. Ça m'a ouvert des portes, même pour un stage. Tu vois, j'ai fait un stage à San Francisco. Et en fait, à un moment, je demande à mon boss, je dis, mais pourquoi tu m'as choisi, quoi? Il m'a dit, ah, c'est ton nom, j'ai bien aimé, et voilà. Et je dis, ah, que ça? Bon, je vais remercier mon papa. Non, il y a un truc qui est chouette, ça fait un peu la carte de visite par rapport à ce que je fais. Et en même temps, je le mets, tu vois, sur mes pages, je mets que c'est mon vrai nom, parce qu'il y en a beaucoup qui croient aussi que je me la pète.
Ah oui, quand tu t'es créé un nom de scène.
Divine, voilà, petit nom de scène, tu vois, pour qui elle se prend. Et donc, entre parenthèses, je dis, c'est mon vrai nom, quoi, tu vois.
Je confirme, à l'école de commerce, tu avais ce nom de famille.
C'est ça.
Qu'est-ce que tu penses que la petite Sarah de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui?
Je pense qu'elle serait fière de se dire, tiens, tu continues à t'amuser même dans ce monde, tu vois. Je pense que c'est ça qui est le plus beau. Et puis, quand je vois, là, je suis sortie d'un stage de 5 jours, on était 20, et il y a eu une dizaine de témoignages vidéo, et j'étais mais tellement touchée. Tu vois, de voir que, en fait, j'aide après d'autres personnes à juste ressentir leur cœur, à avoir de nouveaux foi en la vie, à sentir qu'ils choisissent de vivre, même si d'autres sont partis. Et ça, je trouve que c'est tellement beau de dire, tiens, ça peut se propager, en fait, ailleurs, et je peux aider d'autres personnes à avoir du plaisir à vivre sur Terre. Tu vois, je trouve que ça, c'est juste de voir le regard des gens. C'est pas le fait d'avoir des compliments. Ça me touche pas. Mais c'est quand je vois la personne où elle a un regard qui pétille plus, on a l'impression qu'elle est plus jolie, plus féminine. Tu vois, ça, je trouve ça trop beau, quoi. Moi,
c'est magique. Ouais. Tandis que dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi?
Je pense qu'au début, ça a été le fait d'être en couple, où j'ai renoncé à ça, tu vois, pour avancer plus sur mon chemin. Et en même temps, je me suis pas séparée pour me lancer dans mon activité. Mais je pense qu'il y a eu quand même un peu ce côté-là. Est-ce qu'il y a un autre renoncement? Je pense aussi de pas... je suis assez maladroite, même si, en fait, je pense que ma maladresse m'a permis, tu vois, de donner du sourire et puis d'aller là où j'ai envie d'aller. Mais je pense que j'ai renoncé à des fois... avoir des paroles qui n'étaient pas forcément... Je fais beaucoup de boulettes, quoi. Voilà. Donc après, j'accepte de faire des boulettes. Ça ne me dérange pas plus que ça, mais je pense que je renonce au fait d'être parfaite, tu vois, et que tout roule de la manière dont j'ai prévu, mais c'est impossible, en fait.
Mais en disant des boulettes, c'est peut-être des lapsus révélateurs aussi, ou pas?
Oui, sûrement, je ne sais pas, tu vois. Après, je vois que ça, parce que sinon, je ne vois pas trop à quoi d'autre je peux renoncer, quoi. Je pense que j'ai renoncé à la stabilité, voilà, on va dire ça. Tu vois, au fait que les choses soient stables. J'ai peu de stabilité, on va dire... aujourd'hui dans ce que je fais, parce que j'ai l'impression que tout est nouveau et tout est une aventure, quoi.
Parce que tu as envie de le vivre comme ça?
Bah, là, j'achète une maison, donc je vais avoir plus de stabilité. Mais je bouge beaucoup, j'ai l'impression que la vie est toujours un jeu et que je n'ai pas envie de me mettre dans une habitude, tu vois. Donc après, quand j'aurai peut-être des habitudes, j'aurai ce challenge de dire, OK, comment je reste connectée à qui je suis, même s'il y a des habitudes? Mais pour l'instant, c'est encore une aventure, quoi. Puis j'aime bien voir cette vie de cette manière-là. De me dire d'acheter une maison, ça va être une aventure. De m'installer en Suisse, ça va être l'aventure. Et donc, je pense que ça me permet de garder mes yeux d'émerveillement et d'oser sortir de ma zone de confort ou de petit cocon, quoi.
Et là, du coup, en t'installant en Suisse, vous connaissez du monde là où vous allez vivre?
On connaît un petit peu de monde. On a quelques amis entrepreneurs. Et puis, mon compagnon, là, ça fait 3 ans qu'il est en Suisse. Donc, il a déjà un petit groupe d'amis Donc voilà. Puis après, j'en rencontrerai d'autres, tu vois, dans des réseaux d'entrepreneuriat ou dans d'autres éléments. Donc après, en m'installant, ça va être aussi l'aventure de rencontrer d'autres personnes, quoi.
Ouais. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser?
Je pense que, tu vois, lors de ma première séparation, ça faisait 5 ans que j'étais avec cette personne-là. Et il a commencé à... En fait, je me suis rendu compte qu'il était alcoolique, tu vois, que c'était pas que parce qu'on était jeunes et qu'on buvait souvent. Et le fait d'arrêter la relation, pour moi, ça a été un vrai apprentissage difficile de dire, en fait, je peux pas sauver la personne que j'aime. Tu vois, et ça, ça a été dur. Et de voir que par rapport à ce challenge que lui, il a dans la vie et qu'il a encore, tu vois, ça, c'est encore un truc où ça a été une des plus grandes difficultés quand j'étais jeune, quoi.
Ouais. Et aujourd'hui, donc, ton blog, il s'appelle Happy Turtle.
Ouais.
Pourquoi?
En fait, j'adore ce côté tortue joyeuse, tu vois. Pour moi, la tortue, elle a cette sagesse à l'intérieur d'elle. Elle a aussi cette fluidité parce que quand on voit une tortue, en fait, qui navigue et qui va prendre des courants chauds, elle va à une vitesse incroyable. Et en même temps, sur Terre, elle galère un peu plus. Et donc, j'aime beaucoup cette notion de tortue, d'Happy Turtle. Et c'est vrai que comme j'ai beaucoup voyagé et que je suis très... J'aime beaucoup les îles, j'aime beaucoup la chaleur. Tu vois, la Réunion, j'y vais souvent parce que c'est une terre qui me ressource. Mais j'ai animé aussi pas mal d'ateliers à Tahiti, en Polynésie. Et donc, j'aime ce côté insulaire et d'avoir du plaisir à vivre, quoi.
Ouais. C'est quoi tes plus grandes peurs et comment tu les traites?
Je pense que j'ai pas une grosse peur. À un moment, ma plus grande peur, tu vois, c'était avant de partir en voyage, c'était de tomber malade à l'autre bout du monde, tu vois, et de me perdre dans la jungle. Et en fait, j'ai fait les deux et je m'en suis sortie. Et donc, depuis, après, je me dis, tiens, c'est quoi ma plus grande peur? Mais je pense que j'en ai pas, tu vois, j'ai pas de... Parce que je suis OK avec le fait de mourir, je suis OK avec le fait que je suis en paix avec ce que mes proches meurent un jour, tu vois, donc j'ai pas de... Non, là, j'ai pas vraiment de... C'est un peu bizarre à dire, mais j'ai pas de peur.
Tant mieux, hein?
Ben oui.
De quoi tu es la plus fière aujourd'hui?
Je pense que le fait que je sois la plus fière, ça va être juste d'avoir du plaisir à vivre, tu vois. Je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Et voilà, je suis contente de vivre, je suis contente d'être sur Terre, tu vois. Ça me rend... Voilà, j'aime bien.
Est-ce que tu penses qu'il faut être passé justement par ce moment-là ou de se dire « j'ai pas de plaisir à vivre » pour pouvoir vraiment se rendre compte qu'on a plaisir à vivre?
Non, je pense que tout peut être fait avec légèreté et fluidité. On n'est pas obligé de passer par des épreuves difficiles, tu vois. Je pense que ça, c'est plus notre côté sacrificiel qu'on a avec notre culture ou avec la religion catholique, tu vois, de dire « tiens, il faut sacrifier pour avoir un cadeau derrière ». Donc, je pense qu'on peut avoir cette légèreté, cette fluidité, aimer la vie, même si on ne traverse pas des épreuves.
Super. Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne que tu rencontres et qui te dit que tu n'en es là exclusivement que grâce à de la chance?
Bah, moi, je dirais que c'est OK, quoi. Que moi, j'aime avoir de la chance et qu'elle peut en avoir aussi, quoi. Que c'est, la chance, elle est accessible à tous.
Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui?
Je pense que ça m'aurait fait plaisir, et c'est ce que je fais là avec les personnes qui ont ces flashs et ces visions-là, tu vois, d'avoir une personne, mais en même temps, je l'ai eu à travers mon père, qui me disent « non, mais en fait, toutes tes perceptions, elles sont justes, tu vois, continue à aimer la vie et à garder cette joie à l'intérieur de toi, tu vois. » Même si je disais beaucoup, avant de dormir, je disais beaucoup « faites des rêves en couleur, tu vois, parce qu'en noir et blanc, c'est triste. » Et j'avais vraiment cette vision, tu vois, d'être colorée, mais que le monde autour de moi était en noir et blanc à certains moments. Et je pense que le fait qu'une personne m'aurait dit « mais reste coloré, tu vois, c'est OK, même si tout le monde est noir et blanc autour de toi, reste coloré. » Mais je pense que je n'aurais pas compris, en fait, à l'époque. Mais je pense que le fait de dire « ouais, mes perceptions sont justes et tu peux garder cette joie, c'est OK, même si personne ne l'a autour de toi, quoi. »
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Je pense que j'ai adoré faire un stage au Nouveau-Mexique avec Marshall Rosenberg. Sur la communication non violente, parce que c'est là où j'ai appris à exprimer en fait mes besoins et à pas, ça m'a fait beaucoup de bien, ça, tu vois. Donc vraiment ce côté Tiens, reconnecte-toi à tes besoins. Qu'est-ce que, de quoi tu as besoin aujourd'hui? Et ça m'aide à dialoguer avec moi, à être plus bienveillante avec moi et aussi avec les autres, tu vois, d'aller voir au-delà de ce que la personne vit.
Ouais. Ouais, les besoins, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, mais je pense pas assez. C'est se dire vraiment de quoi j'ai besoin pour me sentir bien. Et si j'ai pas ça, en fait, ça sert à rien que j'essaye d'aider les autres parce que si je m'aide pas moi-même. Ouais. C'est quoi, du coup, toi, tes besoins à toi?
Moi, j'ai vraiment ce besoin de légèreté et de joie, tu vois, qui est toujours présent. Un besoin de connexion à soi, à la nature ou aux autres. Et aussi, j'ai un besoin de clarté qui, aujourd'hui, se transforme plus en sagesse, tu vois, d'essayer de prendre du recul par rapport à ce que je vis et d'avoir plus de connexion avec cette sagesse qu'on a tous à l'intérieur de nous, quoi.
Ouais. C'est quoi tes prochains défis?
Mes prochains défis, je pense, ça va être, j'aimerais bien être maman, tu vois, donc on va voir comment ça va se faire ou pas. Tout ce, tu vois, est-ce que ça va venir vite? Est-ce que ça va prendre un an? Est-ce que, et puis comment je vais le vivre aussi avec mon compagnon, tu vois, je pense que ça va être un défi parce que j'aimerais continuer à avancer et avoir cette vie équilibrée. Et donc, je pense que ça va être un petit challenge. Je pense que ça va être ça, le plus gros défi. Et puis là, je suis en expansion, enfin en développement de ma société. Et donc, j'ai plein de projets. On va créer une boutique qui va s'appeler Happy Lagoon.
Génial.
On va vendre plein, voilà, on pense à plein de choses, mais ça pourrait être des bougies, des bijoux. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc ça va être aussi un défi. Et puis, ouais, dans mon business ou dans mon activité, de plus automatiser des choses, que ça soit… tu vois, j'aimerais bien après transmettre un peu plus moi ma méthode pour que d'autres puissent aussi l'animer. Donc, j'ai toujours plein de projets, plein d'envies. Et donc après, là, je suis vraiment bien accompagnée par des partenaires et puis par ma responsable opérationnelle pour mettre en œuvre, en fait, tous ces projets-là et que je ne sois pas toute seule à le faire parce que je n'ai pas ce talent d'organisation. J'ai un talent de connexion, mais j'ai appris à développer des compétences d'organisation, mais ce n'est pas à un niveau, en fait, je n'y suis plus. Et donc là, c'est d'avoir cette équipe-là et de dire, tiens, je peux encore rêver encore plus grand, tu vois. Et ça, j'adore ça, quoi.
Génial. Est-ce que tu as un conseil de lecture?
Moi, quand j'étais ado, j'adorais Neil Donald Walsh, Conversation avec Dieu. Et après, mes livres. Là, j'ai écrit deux livres. Un, Les cinq portes de l'intuition. Et le deuxième, c'est Le carnet de dessin intuitif. Et ça, j'adore. Les gens sont accros à ça. C'est comment se reconnecter à soi, développer sa créativité et en même temps reconnecter avec son âme. Et donc, c'est un mélange de… C'est vraiment un pont vers le conscient et l'inconscient avec un jeu. Et donc, voilà. Moi, j'adore les faire. Et puis, j'en invente encore plein d'autres. Donc, voilà. Amusez-vous, quoi.
Ouais. Ça, c'est un truc… Bon, après, j'aime beaucoup dessiner. Et j'avais un livre qu'on m'a offert qui s'appelle « Dessiner sa vie en je ne sais plus combien de coups de crayon ». Et en effet, quand j'ai préparé l'interview, que j'ai vu que tu as écrit ce livre, je me suis dit, bon, faut absolument que je l'aie parce que j'ai tellement envie de, que je le commence, j'ai trop envie de jouer avec. Parce que clairement, quand tu fais des exercices, tu vois, à l'occasion du premier confinement, ouais. J'avais créé un programme avec un certain nombre de professionnels dans l'univers du développement personnel, mais à la fois des préparateurs mentaux et compagnie, pour aider les gens au moment du confinement, du premier confinement, à se reconnecter à eux et puis à se dire qu'ils avaient le choix et la possibilité de se mettre en mouvement. Et Thomas Samut, qui est le préparateur mental de tous les plus grands nageurs français, avait créé un exercice pour justement, tu donnais une de tes problématiques et tu l'illustrais en dessin. Il y avait plusieurs étapes pour pouvoir prendre conscience et ancrer ça en toi. Et j'avais trouvé que c'était mais d'une puissance absolument incroyable. Donc, et ce qui est génial, c'est que bon, moi, tu vois, je suis pas forcément un bon exemple parce que j'aime dessiner, mais même, tu vois, que même des gens qui ne savent pas dessiner et qui n'ont pas d'appétence pour le dessin arrivent vraiment à puiser des choses en eux. C'est fou.
C'est ça. Puis, comme tu dis, c'est vraiment là, il y a pas de dessin parce qu'on ferme les yeux. Donc, de toute façon, notre dessin au début, il ressemble à des bouillies, tu vois. Donc, à un moment, il y avait une personne comme ça, me dit, mais tu sais, Sarah, j'étais nulle en dessin quand j'étais petite. Je dis, non, non, mais on s'en fout. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas, tu vois, ça fait des formes, en fait. C'est ça qui est chouette. Ouais. Et plus on en fait, plus on arrive à décoder qu'est-ce que ces formes signifient pour nous. Mais c'est toujours une côté de visualiser, par exemple, un rêve Parce qu'il y a 40, c'est comme un menu, donc il y a 40 exercices différents. Donc après, on pioche celui qu'on veut. Ça peut être sur les rêves, sur la mission de vie, sur calmer son esprit, développer son intuition. Donc voilà, moi j'aime bien parce que ça détend, ça calme, et puis on se reconnecte à quelque chose qui est plus grand que nous à l'intérieur. Mmh. Quoi.
Et tu vois, là j'ai créé du coup ce que je disais tout à l'heure, un bilan de compétences nouvelle génération, ouais. Et du coup que j'ai appelé découvrir sa mission de vie, parce que pour moi c'était vraiment ça qui résonnait en moi, et j'ai fait beaucoup de recherches scientifiques pour pouvoir trouver des preuves scientifiques pour pouvoir aider les plus pragmatiques à avancer. Génial, donc l'idée c'est vraiment que tout le programme est basé sur des preuves scientifiques. Et notamment, il y a un truc que j'ai découvert, c'est que quand tu écris avec la main, tu arrives à connecter avec ton cerveau, avec ton âme, avec ton cœur, des choses que tu n'arriveras jamais à sortir soit par la parole, soit même en tapant avec l'ordinateur. Et donc, ouais. Du coup, je dis à toutes les personnes, prenez un petit cahier, écrivez sur le papier, ouais. Enfin sur le papier, c'est bon jeu de mots, non voulu. C'est quelque chose qui peut paraître bizarre. Mais pour l'avoir expérimenté moi-même, clairement, c'est fou ce que tu arrives à écrire, en fait. Et tu te relis, genre, 15 jours après, tu dis, mais moi, j'ai écrit ça, c'est un truc de fou, quoi.
Ah, c'est chouette. Et après, on le fait souvent avec la main gauche, si on est droitier, comme ça, ça nous coupe encore plus notre esprit conscient. Ouais. De faire un joli dessin. Mais c'est vrai que le fait d'écrire, ça, c'est aussi de Shakti Gaiwen, celle qui libérait votre créativité, qui parle beaucoup que plus on écrit chaque jour, plus en fait on ouvre un canal de créativité et de connexion en fait à soi. Et il y a vraiment cette notion de on n'est pas nos pensées. Et donc le fait de prendre de la distance par rapport à nos pensées, ça ouvre des portes à l'intérieur de nous qui vont être plus remplies de sagesse, quoi.
Ouais. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ?
Bah écoute, je veux dire merci à mes parents comme ils m'ont transmis la vie. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire. Donc je veux dire merci à ma mère et à mon père.
Et alors, pour ceux qui sont intéressés par ton travail, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te trouve, comment ça se passe,
s'ils veulent aller plus loin? Écoute, on me retrouve sur mon blog, donc c'est happy-turtle.world, et sinon également sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, LinkedIn. Là, je me suis mise sur TikTok, donc voilà, ça reste ouvert. Et après, l'idée, c'est vraiment de vous amuser. Donc moi, je propose beaucoup de jeux, de formations en ligne ou des abonnements. Pour peu importe où vous en êtes, en fait, que ça soit vous voulez démarrer et vous savez pas exactement ce que c'est que l'intuition, ou jusqu'à vous avez des flashs et des visions et vous avez juste envie de comprendre comment être bien, même si vous voyez des choses un petit peu perchées.
Génial. Un grand, grand merci, Sarah. Merci. Et puis j'espère à très vite.
Merci beaucoup. Bye bye.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Retrouvez tous les liens pour suivre Sarah sur pourquoipasmoi.co. Rendez-vous sur Instagram également, sur mon compte pourquoipasmoi.co, pour tenter de gagner son nouvel oracle. Si le podcast vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. En attendant, je vous donne rendez-vous demain pour la newsletter de Pourquoi pas moi, et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.